Alors, je pense qu'on peut commencer par planter le décor avec une scène qui est un classique absolu pour quiconque fréquente les écuries. On l'a tous vue, cette scène.
Ah oui, je vois très bien de quoi tu parles.
Voilà. On est, disons, dans l'allée centrale. Il y a de l'agitation, le vétérinaire est là pour faire un vaccin, ou peut-être c'est le dentiste en pleine intervention avec sa fraise. Et au milieu de tout ça, il y a ce cheval. Parfaitement immobile, mais vraiment une statue de marbre, quoi. Il bouge pas une oreille, il décale pas un pied d'un millimètre. Et autour, tout le monde s'extasie en disant waouh, quel brave cheval, ou c'est incroyable comme il est zen.
Ouais, c'est vraiment l'image d'Épinal par excellence.
C'est ça. On l'a tous ressenti, ben, une petite pointe d'envie devant une telle sérénité.
Et c'est normal, tu sais, cette immobilité, elle est extrêmement confortable pour nous, les humains.
Bah oui, ça rassure.
Exactement. On est naturellement attiré par ce qui est prévisible, par ce qui fait pas de vagues, surtout pendant des soins vétérinaires où il y a un vrai risque physique. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est précisément ici qu'il faut avoir le courage de changer de lunettes.
De changer de lunettes, c'est-à-dire...
Et si ce silence de plomb, cette grande immobilité absolue, et si ce n'était pas du tout de la sérénité?
Waouh, d'accord.
Et si, en réalité, ben c'était le symptôme d'une tempête intérieure qui est tellement violente que l'animal est juste enfin, incapable de l'exprimer physiquement?
Eh ben, c'est exactement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger là-dedans en profondeur. L'idée, c'est d'aller au-delà de cette illusion de calme, d'apprendre à écouter les murmures avant qu'ils deviennent des cris.
C'est fondamental, ouais.
Et le fil conducteur de cette discussion, qu'on tire de l'approche Ekimaem, c'est vraiment cette phrase: comprendre avant de corriger.
Oui, comprendre avant de corriger, c'est la base de tout.
Sans jamais tomber dans la culpabilisation, évidemment. Le but, c'est de décrypter la pensée du cheval pour aller vers plus de confort et de coopération.
Tout à fait. Et pour bien saisir ce qui se passe sous la surface, quand le cheval est figé, il faut se replonger un instant dans sa biologie.
La survie, quoi. Voilà. Le cheval, c'est un animal de proie. Son système neurologique, il est entièrement câblé pour repérer le danger et survivre. Donc face à une menace, son cerveau, il va pas lui proposer 50 solutions.
Ouais, le système autonome prend le relais.
C'est ça. Il y a un ordre de priorité clair. La stratégie numéro 1, l'option par défaut, depuis des millions d'années, c'est la fuite.
Bien sûr. Sauf que, dans notre quotidien de cavalier, cette fuite, elle est pratiquement toujours bloquée, non?
Exactement.
Que ce soit par un lit-col, par des attaches croisées dans la douche ou même les murs d'un box.
Ouais, ou parfois simplement par conditionnement. Le cheval a appris que chercher à fuir face à un humain, ben, ça entraîne une sanction.
Ah oui, donc la fuite est annulée psychologiquement, c'est ça. Et c'est là qu'est le nœud du problème. Quand la fuite est impossible, le système nerveux évalue la deuxième option, qui est le combat.
Sauf qu'un cheval domestique sait que combattre, c'est dangereux.
Voilà. Et donc, que fait le cerveau quand la fuite et le combat sont bloqués et que la terreur est toujours là? Il enclenche le disjoncteur d'urgence, ce qu'on appelle la sidération.
La fameuse sidération.
Ou l'immobilisation tonique. Physiologiquement, c'est un effondrement. Le système parasympathique dorsal prend le dessus, le rythme cardiaque peut chuter ou au contraire s'emballer complètement en silence, la respiration devient très courte.
C'est une sorte d'apnée émotionnelle.
Exactement. Le corps se fige pour protéger l'esprit d'une surcharge qui serait fatale. Et puis, évolutivement, c'est aussi pour essayer de ne pas déclencher le réflexe de poursuite chez le prédateur.
C'est fou de se dire ça. Pour illustrer, j'aime bien utiliser une analogie humaine, parce que de l'extérieur, on voit juste rien du tout.
Ouais, vas-y.
Imagine une personne qui a le vertige, mais un vertige paralysant.
D'accord.
Et elle se retrouve coincée sur un plongeoir de 10 mètres au-dessus d'une piscine. Vue d'en bas, les gens se disent waouh, quel sang-froid! Elle bouge pas, elle crie pas. Mais à l'intérieur de sa tête,
C'est la panique totale.
c'est le chaos absolu. Son cœur tape à 1000 à l'heure, son amygdale a court-circuité son cerveau rationnel. Elle est, bah, physiquement incapable de faire un pas.
C'est une super image. L'analogie du plongeoir, c'est exactement ça. C'est pas du tout du courage, c'est une paralysie involontaire.
Le corps est là, mais la conscience est piégée.
Voilà. Et c'est ça que vit le cheval face à une tondeuse ou une aiguille qu'il perçoit comme mortelle. Mais il y a un truc très important à comprendre. Cette immobilité, elle a une date d'expiration.
Ah, c'est pas un état stable alors.
Non, pas du tout. La tension, elle s'accumule. Si on continue à mettre la pression, si le veto continue ses gestes pendant que le cheval est en détresse muette, la digue mentale finit par lâcher.
C'est la cocotte minute sur le feu dont on aurait bouché la soupape.
C'est exactement ça. La pression monte et boum, le système nerveux peut plus contenir cette énergie. Et là, on a ces fameuses explosions. Le cheval se cabre, tire au renard à pêcher une longe ou rue d'un coup.
Et l'humain est complètement surpris.
Bah oui, il se dit « je comprends pas, il était si calme ».
Alors qu'il hurlait en silence depuis un quart d'heure.
Voilà, il hurlait en silence.
Ce qui nous amène à un point central de notre échange. Si l'immobilité globale nous ment, où est-ce qu'on doit regarder? Si la vérité n'est pas dans les pieds, par où est-ce que cette panique finit par fuiter?
Eh bien, elle fuite dans les détails microscopiques. C'est là qu'il faut développer ce qu'on appelle l'attention de qualité.
C'est-à-dire rétrécir notre champ de vision?
Exactement. Observer les micro-tensions musculaires. La science a même créé un outil pour ça, le HGS, l'échelle faciale de la douleur du cheval.
Ah oui, j'ai lu des trucs là-dessus, c'est passionnant.
À la DAS, c'était pour la douleur physique post-opératoire, mais c'est redoutable pour lire la détresse émotionnelle. Et il y a 3 zones spécifiques à scanner.
Si on commence par le regard, par exemple. On dit souvent que l'œil, c'est la fenêtre de l'âme ou du système nerveux. On parle beaucoup de cet accent circonflexe. Mais physiologiquement, qu'est-ce qui fait ça?
Bah, c'est pas juste une mimique. Sous le stress intense, le système nerveux sympathique va contracter involontairement un muscle précis au-dessus de l'orbite.
C'est incontrôlable pour le cheval.
Totalement. C'est le muscle releveur de l'angle médial, et cette contraction, elle vient figer le regard, elle crée cette ride en V inversé, cet accent circonflexe.
Et l'œil en lui-même, il change?
Oui. Un cheval calme, son œil est mobile, il cligne souvent. En sidération, le clignement s'arrête. Et parfois, tu vois la sclérotique, le blanc de l'œil, qui apparaît parce que le globe est exorbitant de tension.
C'est un radar incroyable. Et si on descend un peu, vers la bouche et le menton? Pour nous, les humains, quand on a peur d'avoir mal, on serre les mâchoires à s'en péter les dents.
Ouais.
Est-ce que le cheval fait la même chose?
C'est exactement le même héritage, on est tous des mammifères. Chez le cheval, les masséters, ces gros muscles sur les joues, ils sont ultra puissants. Quand il a peur, il se tétanise.
Ils deviennent durs comme de la pierre, quoi.
C'est ça. Le cheval serre les dents pour se préparer à un choc ou pour réprimer un son. Et ça se voit sur tout le bas de la face. Les lèvres, qui devraient être souples, elles se pincent et le menton devient super pointu.
Donc on a l'œil figé, la mâchoire verrouillée. La troisième zone, j'imagine que c'est les oreilles.
Bien sûr.
Mais là, faut nuancer. On connaît tous les oreilles complètement plaquées en arrière en mode agressivité. Mais pour la sidération, c'est différent, non?
Oui, il faut pas confondre. En cas de détresse sourde, on observe la position dite en 10h10.
10h10, comme sur une montre.
C'est ça. Les oreilles sont vers l'arrière, mais elles restent écartées l'une de l'autre et les pavillons pointent vers le bas.
Mais pourquoi cette position bizarre s'il ne cherche pas à menacer?
Parce que son attention est divisée. C'est neurologique. Il essaye d'écouter la menace immédiate, genre la main du soigneur, mais son instinct lui dit de rester attentif à tout le reste au cas où un prédateur arriverait.
Waouh! Le conflit interne total!
Exactement! Le conflit fait que les oreilles se figent au milieu, incapables de choisir.
C'est hyper révélateur. Mais au-delà du visage figé, il y a aussi un truc plus dynamique, non? Un baromètre super précoce. La mastication. C'est une histoire de bascule entre les systèmes nerveux.
C'est tout à fait ça. On l'appelle le maître indicateur. Manger, déglutir, tout ça, c'est géré par le système parasympathique. Le système du calme et de l'apprentissage.
Donc un cheval qui mâchouille, c'est un cheval qui apprend.
Oui, il est fluide. Mais dès qu'il détecte un danger, le système sympathique, celui de l'alerte, prend le dessus. Et il coupe direct les fonctions non essentielles, comme la digestion.
La mâchoire s'arrête net.
Net. La bouche devient sèche. C'est l'alarme de niveau 1. Le cheval murmure « Là, je gère plus du tout la situation ».
Si on voit ça, on peut désamorcer bien avant que ça dégénère.
Avant même l'accent circonflexe, oui.
Par contre, je me demande, est-ce que tous les chevaux montrent ces signaux de la même façon? Il y a des chevaux qui sont plus poker face que d'autres?
C'est une super réflexion. Et oui, la génétique joue beaucoup. Il faut faire très attention avec certaines races, comme les chevaux de trait ou les ânes.
Ils cachent plus leur jeu?
Évolutivement, ils sont devenus maîtres pour masquer la douleur. S'ils montrent une faiblesse, ils sont la cible des prédateurs. Donc face au stress, ils ne s'agitent pas. Ils s'enferment dans une prostration hyper discrète.
Et les micro-signaux sont presque invisibles?
Pratiquement. Et la grande tragédie, c'est que l'humain prend cette prostration pour de la placidité, ou même pour de l'entêtement. On se dit, il est solide comme un roc, alors qu'en fait, il est terrorisé.
Ça donne une responsabilité énorme à celui qui observe. Et ça fait directement la transition avec nos propres réactions.
Ah oui, les maladresses humaines.
Parce qu'avec toutes nos bonnes intentions, on fait souvent tout l'inverse de ce qu'il faudrait, non ?
Oui, et je veux vraiment qu'on soit indulgent avec nous-mêmes. On fait ce qu'on nous a appris. La pire erreur, c'est le mythe du courage.
C'est-à-dire ?
Reprends le cheval tétanisé chez le véto. Il est en apnée. Qu'est-ce qu'on fait en général ?
Ben on s'approche, on lui fait des grosses caresses, on lui donne un bonbon et on dit « C'est bien mon grand, t'es courageux ».
Voilà. Sauf que, d'un point de vue neurologique, en faisant ça, tu valides son immobilité.
Attends, donc il se dit que sa terreur est justifiée ?
Et exactement, il est en choc passif et ton attitude récompensante lui confirme que sa stratégie de survie se figeait. C'est la bonne réponse face à la situation.
On l'enferme dans sa sidération, en fait.
C'est ça, on lui dit « Oui, la situation est terrifiante, reste bien figée ».
C'est fou, on pense tellement bien faire. Et à l'inverse, si le cheval bouge, mettons qu'il n'est pas sidéré, le véto approche et le cheval fait un pas en arrière ou jette la tête sur le côté.
Dès que le cheval de 500 kg fait un écart, l'humain panique. On lève les bras, la voix devient dure, on tire sur la longe en criant « Oh, tu vas te calmer !»
On rajoute un stress massif sur un stress naissant, quoi.
Voilà. Le cheval a juste fait un mouvement pour dire « Oula, c'est trop de pression pour moi, là ». C'est de la communication vitale, pas de la désobéissance.
Et l'humain, en hurlant, lui donne raison d'avoir eu peur.
Ben oui, le référent humain devient soudainement agressif et instable. C'est la confirmation de la menace.
Tu sais, j'aime bien prendre l'image d'un petit enfant qui a la phobie du noir.
C'est très parlant, ça.
S'il est seul, la lumière s'éteint, il panique et pleure. Si son parent débarque, allume en grand et hurle « Arrête de pleurer pour rien !» L'enfant va pas se calmer.
Ah bah non, c'est pire.
Il a peur du noir et de son parent en colère. La vraie solution, c'est d'entrer doucement, mettre une veilleuse, parler bas et l'accompagner jusqu'à ce que la pression redescende. Et je le redis, il faut pas se sentir coupable de nos erreurs passées.
Surtout pas. La culpabilité, ça bloque tout. L'important, c'est d'utiliser ce qu'on apprend aujourd'hui pour évoluer. Et c'est ce qui permet de passer du contrôle au consentement.
C'est la vraie révolution. Mais concrètement, dans la vraie vie, comment on fait cette bascule ? Comment on transforme l'enfer de la tonte ou du spray anti-mouche en un vrai moment de confiance ?
La clé, c'est de chercher l'accord de l'animal. On veut plus de l'obéissance forcée, on veut de la coopération. Et pour ça, le truc le plus puissant, c'est le bouton stop.
Le bouton stop ? Donner un bouton d'arrêt d'urgence à un cheval ?
Ouais, ça paraît dingue, mais ça marche de façon incroyable.
Comment on fait ça en pratique ?
Le principe, c'est d'apprendre au cheval qu'il a le droit de dire non et que tu vas respecter son choix. On utilise souvent une cible, un objet immobile.
Genre un plomb en plastique.
Voilà. On lui apprend à poser le bout de son nez dessus. Tant qu'il garde le nez collé au plot, c'est son signal pour dire « Ok, c'est bon, je suis prêt, tu peux commencer le soin ».
D'accord.
Tu approches la tondeuse et la règle d'or absolue, c'est que si le cheval retire son nez de la cible, tu arrêtes tout instantanément, tu recules la tondeuse, tu baisses la pression.
Mais c'est hyper contre-intuitif pour nous. On se dit que si on donne le choix à un animal peureux, il va passer sa vie à retirer son nez et on fera jamais le soin.
C'est ça le grand paradoxe de la psychologie animale. Le fait de lui redonner le contrôle, ça modifie littéralement sa chimie cérébrale.
Ah ouais ?
Oui. Savoir qu'il a le pouvoir de faire arrêter la pression, ça fait s'effondrer son taux de cortisol, l'hormone du stress. La prévisibilité, ça crée un sentiment de sécurité immense.
Et comme il est en sécurité, un changement de dynamique total.
Par contre, on est d'accord qu'on débarque pas le premier jour avec une tondeuse allumée vibrante pour lui demander de rester sur la cible.
Surtout pas.
C'est là qu'intervient le fractionnement. C'est la clé de voûte de l'approche. Notre plus grand défaut d'humain, c'est de vouloir le résultat final tout de suite.
On est pressé, quoi.
Oui. Mais si tu dois mettre des gouttes dans l'œil de ton cheval, tu commences pas avec le flacon dans l'œil. La première micro-étape, c'est est-ce qu'il accepte une main douce sur l'encolure en gardant le nez sur la cible ?
S'il le fait, on récompense.
Exactement. Après, la main monte sur la joue. Ensuite, t'approches un objet neutre sans même toucher. Chaque toute petite étape validée dans le confort, ça construit une base solide pour la suite.
Sur le papier, c'est lumineux et ça donne super envie. Mais mettons-nous 2 secondes dans la peau d'un propriétaire.
Vas-y.
Tu as passé des mois à bosser ces micro-étapes avec ton cheval. Le jour J, le véto arrive. Il est grave à la bourre, il a d'autres urgences derrière. Le cheval sent le stress ambiant, il est un peu fuyant et il retire son nez.
Mmh, la scène classique.
Et là, le véto, par réflexe de gain de temps, il veut utiliser la méthode dure. Il attrape l'oreille du cheval pour la tordre, pour le figer par la douleur, le temps de faire sa piqûre. Qu'est-ce que tu fais en tant que propriétaire dans cette fraction de seconde ?
C'est hyper délicat socialement, mais c'est le moment de vérité. C'est là que tu dois devenir l'avocat éclairé de ton cheval.
C'est dur de s'imposer face à un pro en blouse blanche.
Très dur. Ça demande un vrai courage. Mais il faut s'interposer. Avec beaucoup de calme, mais une fermeté absolue. Il faut dire stop. Non, on ne va pas tordre l'oreille. Mon cheval a appris à coopérer. On va prendre 5 minutes de plus pour décomposer le geste, mais on va le faire dans son confort.
Il faut vraiment oser le dire.
C'est vital. Parce que si tu laisses faire une méthode traumatisante sans protéger ton cheval, tout le capital de confiance que tu as mis des mois à construire...
Il part en fumée.
Totalement anéanti. En imposant le rythme de la coopération, tu lui prouves que tu es un vrai partenaire sur qui il peut compter, même quand c'est difficile. Et la plupart des vétos aujourd'hui sont ouverts à ça si c'est amené calmement.
C'est un message hyper fort. Et je pense que ça résume parfaitement tout notre échange. Si on devait faire une synthèse, c'est qu'au final, tout est une histoire de masque, non ?
Exactement, de masque.
La sidération... Cette espèce de silence de plomb face à la terreur, c'est juste une façade. C'est de la survie désespérée. La vraie immobilité, celle qu'on devrait tous viser, c'est un moment de partage.
Tout à fait. Et elle se voit, cette vraie immobilité. Relâchement musculaire, œil doux, mâchoire qui mâchouille.
Savoir faire la différence entre un cheval résigné et un cheval vraiment apaisé, c'est ça qui transforme le cavalier. On passe de l'utilisateur qui impose... au partenaire qui respecte les limites de l'autre.
C'est la plus belle des évolutions. Et ça donne tellement d'espoir. Parce qu'un cheval qui sait qu'on l'écoute, qui sait que ses tout petits signaux de tension sont vus...
Il n'a plus besoin de se figer.
Exactement. Il n'a plus besoin d'utiliser l'apnée émotionnelle. L'environnement devient sûr et le dialogue remplace la survie.
Le dialogue remplace la survie. Magnifique. Pour conclure cette plongée aujourd'hui, j'aimerais laisser une petite réflexion ouverte à ceux qui nous écoutent.
Je t'en prie.
Imaginez un instant si on arrêtait d'exiger ce silence de plomb de nos chevaux. Si grâce au consentement et au bouton stop, on leur redonnait le droit de dire non. Quelle nouvelle facette de leur personnalité ils oseraient nous montrer ?
Plein de belles choses sûrement.
Peut-être un côté plus joueur, plus curieux, ou même une intelligence que la peur bloquait complètement. Qu'est-ce qu'on va découvrir quand ils auront plus besoin de jouer les statues pour nous supporter ? C'est une pensée, à garder en tête la prochaine fois qu'on tiendra un licol. Merci à tous d'avoir suivi cette discussion passionnante et prenez soin de vos partenaires équins.